antenne de CKRL 89.1, vous écoutez La Vie en BD. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD sur les ondes du 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour explorer cet univers, une émission qui sera principalement, même entièrement consacrée à la bande dessinée, ou presque. Je me garde toujours un petit ou presque, puisqu'on ira faire un tour du côté du cercle avec une exposition qui est présentée là-bas qui s'appelle Abstraction. Il y a un lien avec la BD, c'est une exposition de dessins abstraits, mais elle est faite par l'homme derrière le fanzine Le Bob, que vous connaissez peut-être, qui en est à son 22e exemplaire d'ailleurs. Alors, Joël Sim qui sera avec nous en deuxième moitié d'émission. Et comme quoi, ben, les créateurs BD ne font pas que de la BD. On le savait, mais ce sera confirmé à nouveau ce soir. Sinon, également, côté rencontre, on aura le plaisir de discuter tout à l'heure avec BDiste de Québec, Michael, qui a publié l'année dernière une bande dessinée qui s'appelle Rapa Nuit, le tome 1, Découverte, qui est paru chez Claire de Lune. Alors, on va revenir là-dessus, on va vous amener du côté de l'île de Pâques, à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Également, côté chronique, on va avoir avec nous Thomas-Louis Côté en fin d'émission. Thomas-Louis qui va porter avec nous un regard sur la commercialisation de la BD, la vente de planches originales à l'encan, aux enchères, comment ça fonctionne, c'est quoi un peu les impacts et autres. On va parler aussi de galeries qui exposent des planches BD. Il y en a une qui récemment, je crois, fermée du côté de Montréal. Alors, on parlera un peu de ce phénomène. Et côté commentaires BD, mais dans quelques instants, on va jaser avec Stéphane Gravel, qui va entre autres nous parler du 7e tome de la série Magasin Général. Alors, ça, c'est le menu pour aujourd'hui. Et sinon, mention passage, triste nouvelle d'ailleurs, on parle souvent de piratage, on en parle même beaucoup ces temps-ci sur le web pour bien d'autres raisons, mais semble-t-il que selon une étude du Motif, qui est un observatoire du livre et de l'écrit en Île-de-France, une étude qui a été réalisée pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, eh bien, semble-t-il que la bande dessinée est davantage les best-sellers des deux dernières années que les nouveautés, et la catégorie de livres numériques la plus piratée sur Internet. Il y aurait à peu près entre 8000 et 10000 titres qui seraient accessibles sur des plateformes et forums de téléchargement via des fichiers généralement de très bonne qualité, c'est même très organisé, le regrouper par lot, par série, par auteur et autres. Pourquoi est-ce que la bande dessinée est aussi piratée? Ben, explication du Motif en deux lignes. En raison de ses spécificités, on nous dit que ce genre littéraire se prête facilement à la lecture en ligne, à la collection et malheureusement au piratage. Alors voilà, ça c'est un otule d'ailleurs qu'on retrouve surtout en BD. Pour le lien, ben, je vous invite notamment à devenir fan de La Vie en BD via le site de socialisation Facebook. Alors cherchez La Vie en BD-CKRL 89.1, là, vous allez tomber sur nous. Vous aurez simplement cliqué « J'aime ». Ah ben voilà pour ce petit clin d'œil. Et sinon, ben, on vous le rappelle, à chaque semaine, on vous propose une petite sélection musicale, une découverte musicale dont on écoutera quelques extraits au cours de l'émission. Cette semaine, on s'en va faire un tour à Zagreb, en Croatie, une formation à saveur un peu post-rock qui a été formée en 2004. Ça s'appelle « Don't Mess with Texas » et on va écouter quelques extraits de leur album « Los Días de Junio ». Thank you. l'album Vengeance, I Am The Night, la formation Don't Mess With Texas. Et tel que promis, on se lance maintenant dans le commentaire, la critique. BD Stéphane Gravel est avec nous. Bonjour.
Allô, allô.
Bonne année.
Aussi. Hein? Aussi.
On est encore dans les limites, on a le droit de le dire.
On commence à être tard, là.
Oui, en fait, je pense que dès demain, là, ça va être tard, ça va être assez. C'est tout. Et Stéphane, deux titres dont on va parler cette semaine, notamment un extrêmement tendu au Québec, Magasin Général 7. On se garde un peu de suspense pour celui-là et on parle d'un reportage de Sacco.
Quel BD magnifique. Je te dis, là, cette bande dessinée-là est fascinante. C'est une BD qui est en nomination parmi les meilleures bandes dessinées de l'année à Angoulême. Là, c'est édité chez Futuropolis. Et puis, Joe Sacco est quelqu'un qui est un journaliste, reporter. Et puis là, ce sont ses reportages BD qu'il a fait en Palestine, en Irak, avec les femmes tchétchènes, sur les crimes de guerre, sur les immigrants africains. C'est extrêmement touchant et c'est extrêmement bien fait. Écoute, c'est rare que je parle d'une BD que j'ai pas finie. Oh. Cette BD-là, j'ai pas fini de la lire parce que... C'est intense. C'est pas une BD dans laquelle on va embarquer et on va plonger d'un couvert à l'autre, là. En tout cas, pas moi, parce que c'est des sujets que je trouve quand même difficiles. C'est des sujets qui sont touchants. Puis sachant aussi que c'est pas de la fiction, là, que c'est vraiment un travail d'enquête et d'enquête journalistique qu'a fait Joe Sacco. Ce sont des moments qu'il a vus, qu'il a vécu. C'est sûr que c'est encore plus prenant, là. C'est étonnant, Raymond, moi j'ai trouvé ça étonnant de voir, puis de me poser la question à savoir si la bande dessinée n'est pas plus forte quelque part que la télé ou que la photographie pour rapporter ces moments-là, ces moments difficiles, ces moments humains, parce qu'il y a un petit côté qui fait qu'on embarque dans notre dans un monde de notre imagination, dans un monde pas imaginaire, mais c'est comme c'est dessiné, mais c'est pas tout cuit dans le bec, là. C'est-à-dire que c'est...
On peut compléter une partie, oui, partie des éléments d'information.
C'est pas repoussante, ou c'est pas des images qu'on a vues à répétition, parce que la télé, oui, on a des images qui sont choquantes, mais c'est des images quand on tombe dans un moment tragique, qu'on va voir 24 heures sur 24 en boucle sans arrêt, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ces images-là, c'est comme une mauvaise odeur dans une maison, là. On dirait que notre cerveau vient qu'à les éliminer, à éliminer cette espèce de pollution d'images-là, puis elles nous atteignent plus ou elles nous atteignent moins, où il faut vraiment porter une attention particulière et intéressée pour qu'elles nous touchent, parce que ça peut passer comme ça. Tandis que dans un reportage, ben là, c'est un geste volontaire qu'on a, c'est-à-dire c'est le geste de lecture, on le prend, on embarque, on lit, et puis là, on est ailleurs, j'ai l'impression qu'on est encore plus près de la réalité, qu'on est plus près du sol, c'est quelque chose qui me semble être plus grandé, et on le sait, hein, c'est un travail inouï, faire une bande dessinée et dessiner tout ça, et là, je peux pas m'empêcher de voir l'auteur s'arrêter, se pencher sur une table à dessin ou sur un coin de table de restaurant et commencer à dessiner, à faire des croquis de ce qu'il a vu, de visionner ses photos, de remettre ça en image, de dessiner tout ça. Il y a une réflexion par rapport à ce qui est dit par le temps que ça prend pour l'émettre aussi. La télé, c'est parfois trop instantané à mon goût. Les revues sont parfois trop, entre guillemets, spectaculaires et on essaie de faire un spectacle avec les choses de la guerre et de montrer ça.
Puis, il y a peut-être une intimité aussi à travers la bande dessinée. Je veux dire, il y a une proximité, on se crée une bulle, l'auteur se crée aussi une bulle pour le dessiner. Donc, bref, on passe d'une sensibilité à l'autre, mais toujours dans un rapport d'intimité, là.
Oui, absolument, absolument. Puis c'est du un à un. C'est un peu comme si nous étions assis en face de Sacco et qu'il nous partageait un peu ses dessins et ses moments. Et c'est écrit avec émotion et avec intelligence. Et son dessin est extrêmement précis dans cette BD-là. Là, on sent qu'il s'est arrêté pour dessiner ça. C'est vraiment très, très très bien fait et très touchant. C'est vraiment touchant. Je suis aussi un truc qui... un mot pour définir cette BD-là, c'est touchant. Parce que on vit dans un beau pays.
Et donc, ça, c'est le reportage de Joe Sacco, donc chez Futuropolis. Il nous reste quelques minutes. Et la grande question, en fait, aussi pour l'autre BD dont tu nous parles ce soir, Stéphane Gravel, le magasin général, tome 7. Bien, je pense que la question, c'est est-ce que c'est aussi bon que les 6 premiers tomes?
C'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon. Et je me. Malheureusement, on sent la fin. Mmh. Voilà, c'est une série qui n'est pas une série éternelle, là, ça, là, c'est les auteurs ont scénarisé une série qui devrait se situer entre 8 et 9 tomes, et là, c'est le 7e, donc on voit que tout est mis en place pour s'en aller vers une fin. Encore une fois, il s'est bâti de la même façon que les autres, c'est-à-dire que c'est une aventure où on vit vraiment avec les gens du village, le magasin général, là. Je finissais tantôt en parlant de reportage en disant qu'on a un beau pays. Mais dans le magasin général, c'est ça, notre pays, dans les années 20, il est beau. Mmh. Et puis, là, il y a toute une émancipation qui se passe dans le village du magasin général. Là,
l'impact de la ville, de cet épisode qu'on a passé du côté de Montréal avec les
lignes d'immortalité aussi. Peu, là, de la ville en campagne. Mmh. Et puis, le titre de l'album le dit, il s'appelle Charleston. Donc, il y a un côté très festif et un côté très... Et je ne veux pas raconter l'histoire parce que c'est plate de connaître l'histoire, mais il y a une non-action dans cette bande dessinée-là et il y a un refus de faire avancer l'histoire qui est très intéressant à mon goût. C'est-à-dire qu'on n'est que dans des... on n'est que dans une suite consécutive de moments présents, en fin de compte. On ne pense pas au passé, on ne pense pas au futur, et même que quand on a une possibilité de vouloir penser à construire quelque chose, on va essayer d'éviter de le construire parce qu'on va vouloir s'arrêter au moment présent tout le temps, tout le temps, tout le temps et profiter de la vie.
C'est ce titre, le titre est bien choisi.
En bout de ligne, c'est sûr, là.
Et à ce titre-là, Stéphane, le titre me semble bien choisi de Charleston. On est dans la danse, dans un moment où on est en train de l'énergie du présent et où on réfléchit pas justement à d'autres choses que cette bulle-là qu'on a dans la fête, dans la danse.
Absolument. Là, les robes vont passer des chevilles à l'ami Mollet, là. Déjà, il se passe quelque chose, ça raccourcit un peu. C'est le début de la liberté, là. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette bande dessinée. C'est qu'ils réussissent encore, Trip et Loisel, à créer des atmosphères qui sont extraordinaires. Puis je me demande si le dessin n'est pas plus beau que les autres. Je me demande s'ils vont pas encore un petit peu plus loin dans le dessin, s'il n'y a pas quelque chose qui est encore plus ficelé, encore plus travaillé. Et c'est extrêmement, extrêmement beau. Mais comme je disais, c'est le malheur, je sens la fin arriver, puis moi, je suis dans le futur, je suis déjà triste de penser que le prochain va peut-être être le dernier, là.
J'avoue, enfin, on le lit avec un peu de tristesse, mais on en profite pour peut-être relire les 6 premiers aussi, pour vraiment, justement, profiter au maximum de ce côté très cinématographique, très épisodique aussi à ce qu'il nous propose.
Absolument. Quand cette série-là va être vue dans son entièreté, je pense que ça va être intéressant de la lire du début à la fin comme un long film, comme un long film tranquille. C'est une BD tranquille, hein? Mm. Elle est très douce, elle est très lente, mais c'est d'une belle lenteur. Moi, j'ai eu un moment de plaisir à la lire, là.
Alors ben voilà, Magasin Général, tome 7 de Jean-Louis Triple et Régis Loisel. Stéphane Gravel, merci.
Ben, ça me fait plaisir.
Et on se dit à bientôt.
OK, bye.
Bye-bye. Ah ben voilà, donc Stéphane Gravel avec ses commentaires BD, et nous on repart avec un petit extrait de la formation d'Antmassouet, Texas. On écoute Cad Ja Podoge. Thank you. êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 et on vous tient au courant, comme à l'habitude, des nouvelles sorties et qui plus est, des nouvelles sorties d'auteurs de la capitale. Il y en a une qui est arrivée, ça remonte déjà quand même un peu à loin, il y a 2 mois ou presque, un peu moins, en décembre dernier, je crois, c'est la série Rapa Nuit, premier tome découverte donc de Michael et de Fabrizio Russo. Et on a le scénariste de cette BD avec nous, Michael, bonjour.
Bonjour.
Et d'ailleurs, en fait, pour les gens qui suivent un peu la sphère bande dessinée, ils vous connaissent surtout pour les bandes dessinées jeunesse, très belles, très colorées, La Neige, Les Nuages. Et avec Rapa Nuit, c'est un peu votre première incursion dans la sphère de la bande dessinée adulte, entre guillemets.
Oui, c'est en plein ça, en fait. Depuis 10 ans, je roule ma bosse surtout en BD jeunesse. Et puis... depuis quelques temps, j'essaie d'élargir mon éventail de création. Et puis, Rapa Nuit, c'est une histoire que j'avais en tête quand même depuis assez longtemps, plus une bonne dizaine d'années. Et puis, j'ai proposé le scénario à mon éditeur Claire Delune, avec lequel je fais des BD jeunesse. Et puis, il a tout de suite dit oui. Et puis, moi, je me sentais pas à l'époque, ça remonte à 3 ans maintenant qu'on a décidé de le faire avec l'éditeur. Et puis, je me sentais pas encore la maturité au niveau du dessin pour le faire, parce que ça demandait vraiment un dessin très réaliste. Alors, on s'est mis en quête d'un dessinateur.
Et pourquoi, en fait, justement, en fait, c'est que votre dessin était un peu moins, était plus fantaisiste. Vous trouvez que ça s'adaptait moins à ce type de récit-là?
Ben, c'est sûr que je pouvais pas du tout utiliser mon graphisme que j'avais développé jusqu'à présent, parce que c'était trop jeunesse, trop graphique. Il fallait vraiment une BD, un style, un design très très classique, et puis avec des personnages réalistes. Et je me sentais pas encore capable de le faire.
Et c'est ce qui vous a amené, en fait, dans cette recherche-là, qui vous a amené vers Fabrizio Russo?
Et ben c'est l'éditeur qui a fait le
dating, entre guillemets.
Exactement, il a plusieurs dessinateurs et scénaristes sous son aile, et puis comme ça, quand il y a besoin de faire une jonction entre les deux, et ben c'est lui qui fait l'entremetteur, en fait.
Et peut-être, en fait, on reviendra un peu au processus de création, mais j'aimerais qu'on mette en place un peu l'histoire pour le bénéfice des auditeurs, auditrices. Il faut dire, bon, dans Rapa Nuit, vous nous amenez sur l'île de Pâques, et c'est un récit un peu en 3 temps, donc passé, présent et futur.
Ouais, c'est en place à Rapa Nuit, c'est le nom pascouan de l'île de Pâques. On l'appelle l'île de Pâques depuis qu'elle a été découverte par des Européens, mais les pascouans, les premiers habitants, l'appelaient Rapa Nuit, qui est un nom qui vient du polynésien. Effectivement, c'est un récit d'anticipation, donc qui se passe dans un futur proche, mais on suit à la fois, en plus du récit principal, on suit 2 autres récits, un récit qui se passe à l'époque de la colonisation justement de l'île de Pâques, il y a un millier d'années, par les Maoris, mais aussi par une autre civilisation. Et puis, qui nous permet comme ça de découvrir l'histoire de l'île de Pâques. Et puis aussi un autre récit un petit peu qui lui navigue entre notre époque actuelle et qui va s'étaler jusqu'à rejoindre l'époque du récit principal, où c'est un mystérieux projet, où on parle d'étoiles et de peut-être de conquête spatiale. C'est assez mystérieux, surtout dans le premier tome.
Et effectivement, parce qu'on sent que ces récits-là convergent vers un point commun, mais on ne découvre pas encore. Il faut dire que c'est pensé aussi comme un diptyque. Donc, premier tome, on établit beaucoup aussi les paradigmes, la réalité, l'ambiance, l'esprit, le mystère. Et dans le deuxième, ben là, ça va être les réponses et peut-être d'autres questions aussi, on imagine.
Oui, c'est en place ça, c'est tout. Et c'est la mise en place dans le tome 1, c'est exactement ça, avec aussi une petite révélation à la fin sur ce que cache l'île de Pâques, en fait.
Si vous ne nous en donnez pas un peu...
forcément, on va débarquer. Et dans le tome 2, justement, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent et tout est lié. Il n'y a aucune scène qui est mise là par hasard, que ce soit dans l'une des 3 époques. Elle est là pour expliquer quelque chose qu'on va retrouver plus tard dans le futur, et etc. Donc, tout va se le délier dans le tome 2.
Et j'imagine, en fait, qu'un récit en 3 temps, comme ça aussi, ça vous donne un outil additionnel dans le découpage de l'histoire, en fait, où on peut justement passer d'une histoire à l'autre, des fois plus brièvement, d'autres fois plus longuement. Mais ça permet à l'intérieur de l'album de créer un suspense additionnel aussi par ces petites pauses, des parenthèses.
Exactement, si on reste sur une accroche, sur une scène, on peut carrément partir sur l'autre récit qui se passe, par exemple, pendant la période de colonisation de l'île de Pâques, il y a 1000 ans, et donc on reste sur cette accroche, et puis il va falloir que l'on tourne les pages sur ce deuxième récit pour enfin revenir pour avoir la réponse de l'accroche sur lequel on était resté quelques pages avant, donc ça augmente un petit peu le suspense, effectivement.
Est-ce que c'est un peu avec cet objectif-là que vous avez inséré ces éléments-là, ou c'était vraiment parce que votre histoire, au départ, il fallait avoir justement ces trois éléments-là pour vraiment pouvoir la développer, amener à la finalité où vous vouliez l'amener?
Ça s'est fait, c'est un long processus qui s'est fait depuis, comme je disais, une dizaine d'années où j'ai commencé à réfléchir à cette histoire sur l'île de Pâques jusqu'à la réalisation du scénario proprement dit il y a 3 ans. Tout ça, c'est venu petit à petit, et puis c'est moi aussi en progressant dans la technique du scénario où je me suis dit, je vais peut-être utiliser trois récits différents. Ça m'a amené plus de richesse dans l'écriture de l'histoire, plus d'accroche pour... Donc c'est vraiment venu petit à petit, et c'était pas depuis le début, c'est en travaillant l'histoire qu'il y a des choses qui se débloquent et qu'on voit, on se dit je vais plus le faire comme ça parce que ça va être plus efficace pour le lecteur.
Et pour les parties plus historiques, est-ce qu'il y a une bonne base de recherche documentaire pour pas dire n'importe quoi, pour pas inventer une histoire à l'île, mais au contraire, je veux dire, l'histoire de l'île elle-même de Rapa Nui est déjà suffisamment fascinante pour pas qu'on ait besoin de l'amplifier ou presque.
C'est ça, il y a déjà plein de mystères, et puis c'est vrai que c'est pas du tout une BD historique, c'est pas un documentaire, ça reste de la fiction, donc je prends des grandes libertés par rapport à la fiction, mais je me suis quand même basé sur plusieurs ouvrages, notamment un des ouvrages de Thor Heyerdahl qui s'appelle Aku Aku, le mystère de l'île de Pâques. Thor Heyerdahl, c'est un archéologue scandinave explorateur qui était très connu pour avoir lancé l'expédition du Kon-Tiki après la Deuxième Guerre mondiale où il avait établi l'hypothèse de colonisation de la Polynésie par de la civilisation précolombienne. Donc il s'était lancé, il avait fait un radeau en balsa et en jonc de mer depuis le Pérou pour rejoindre la Polynésie, et il avait réussi d'ailleurs. Et tout ça pour justifier en fait que l'île de Pâques et la Polynésie auraient pu également être colonisées par des civilisations précolombiennes, pas des Incas, mais antérieures aux Incas. Donc je trouvais ce récit assez intéressant justement parce que sur l'île de Pâques, historiquement, il y a deux civilisations qui se sont confrontées. Il y avait les courtes oreilles et les longues oreilles. Et puis, je suis parti un petit peu de cette théorie-là de Thor Heyerdahl, et puis de ce qui s'est vraiment ce que les Européens ont découvert lorsqu'ils sont arrivés sur cette île au XVIIIe siècle. Et puis, je suis parti de là j'ai pris le parti de dire qu'il y avait eu deux civilisations, une qui venait de l'Ouest et une qui venait de l'Est, qui a colonisé l'île de Pâques. Et forcément, ça a créé des conflits.
Et ça donne une bonne amorce qui nous amène justement à l'intérieur de ce récit-là, et que vous pouvez récupérer aussi dans un contexte de science-fiction, parce que de se projeter en 2070 et plus, ça donne aussi une belle liberté d'anticipation un peu, ou de hors d'un contexte peut-être déjà cadré où on peut insérer des éléments, en retirer d'autres, parce que vous nous placez aussi carrément en pleine crise internationale, au niveau environnemental notamment.
Oui, c'est ça, je voulais aussi en faire une espèce de fable écologique, en fait, puisque l'île de Pâques, il y a eu des écrits, on appelle ça le syndrome de l'île de Pâques, ou ce qui s'est passé sur l'île de Pâques, c'est-à-dire une civilisation qui épuise les ressources naturelles jusqu'à épuisement, justement. On dit que ça peut être le modèle, ce qui peut arriver sur Terre, à l'échelle de la planète entière. Donc, j'ai placé ça dans un futur proche où effectivement les catastrophes climatiques sont à leur apogée, et puis on a trop pressé le citron, et puis il n'y a plus rien, et ce qui fait que on en subit les conséquences, et c'est dans ce contexte historique là futuriste que le récit principal, c'est le cadre du récit principal, en fait.
Et au cœur de ce récit principal-là, vous avez choisi comme protagoniste aussi, comme personnage au cœur de votre histoire, une femme forte, une femme de tête. Pourquoi avoir choisi ce type d'héroïne-là? En quoi ça se prêtait bien, selon vous, à l'histoire de Rapa Nui?
Comme toutes les histoires, ce qui est important, en fait, c'est les personnages, le contexte, le thème, le décor, c'est une chose, ça permet de dramatiser le récit, mais c'est toujours j'essaie de toujours centrer mes histoires sur les personnages, parce que c'est ce que les personnages vont vivre, leurs objectifs personnels et les obstacles qu'ils vont rencontrer. Et c'est tout ça qui va faire naître de l'émotion pour le lecteur. Et c'est ce que c'est. Donc j'ai toujours voulu ramener ça à un personnage principal. Je suis parti d'une femme, je ne sais pas trop pourquoi en fait. Je ne sais pas, j'aurais pu choisir un homme.
Il y a une place à l'instinct. Hein.
Ouais, là c'était instinctif, c'est ça. Donc c'est une jeune femme qui fait partie d'un groupe d'intervention d'une organisation internationale de secourisme. La dernière encore à porter secours aux civilisations en péril suite à des catastrophes naturelles, et puis qui doivent faire face à des conflits importants qu'elle a vécu dans sa vie personnelle, mais aussi dans le contexte général, où, parce que justement son organisme se voit destitué de toute finance. Donc voilà, la dernière organisation d'aide humanitaire vient de disparaître et elle refuse cet état de fait.
Et donc, dans Rap la nuit, je le rappelle, vous êtes scénariste. Vous, habituellement, dans les autres histoires, vous faisiez et le scénario et le dessin. Est-ce que ça a été difficile de lâcher prise? Et est-ce qu'en même temps, c'est une expérience de création bien différente pour vous d'écrire un scénario qui ne serait pas destiné à être dessiné justement par votre plume à vous, mais de l'écrire pour quelqu'un d'autre aussi?
Ouais, ça, c'est certain qu'il y a lâcher prise à faire... C'est indéniable. C'est surtout pour moi qui en plus est dessinateur et auteur de BD, donc la narration, la mise en scène, tout ça, moi je la voyais en écrivant mon scénario. Donc lorsque le dessinateur s'est emparé de l'histoire, ben lui il l'a interprété à sa façon. Donc il fallait pas non plus que il fasse du Michael, entre guillemets, là. Il fallait aussi qu'il l'interprète avec son dessin, donc il y a forcément eu à lâcher prise à faire, mais c'est ce qui est intéressant aussi.
Et justement, est-ce que Fabrizio Rousseau a fait beaucoup, vous avez l'impression qu'il a beaucoup bonifié, qu'il a bien apporté, qu'il a apporté sa touche à lui, dans le fond, à cette histoire, à Rap la nuit?
Ben c'est un dessinateur qui a un dessin très classique, on va dire, entre Michel Vaillant, Buck Danny et Léo, un petit peu, pour être plus Léo, le dessinateur de Monde d'Aldébaran.
Oui.
Donc c'est un dessin qui est très classique, parfois peut-être un peu figé, mais qui... finalement, on sert bien cette histoire. La couleur à l'intérieur fait bien aussi la job. C'est un coloriste aussi, donc une troisième personne qui est intervenue sur l'album. Donc, il a pas une grande expérience dans la bande dessinée, mais je trouve que pour un premier vrai album pour lui, là, il s'en est bien sorti. Et puis, j'avais assez détaillé quand même le scénario. C'était vraiment une description case par case. Mais on échange, mais il me montre toujours ses planches, je donne mon avis, mais mon avis vient toujours, si jamais ça va à l'encontre de la lecture, et s'il y a des éléments qu'il a oubliés, ou ce qui est important vraiment de mettre l'emphase sur tel élément pour que le lecteur, pour jamais perdre le lecteur, donc c'est uniquement là où viennent mes corrections, sinon je laisse quand même assez libre.
Faut laisser aller, comme
c'est
on dit.
Ça.
Et Rap la nuit, donc ça c'est le tome 1, il est sorti donc en fin d'année 2011. Le tome 2, il est prévu pour...
J'ai pas encore de date exacte, on est à la page 30 dessinée, là cette semaine j'ai reçu la page 30 pour avis, donc il en reste plus que 16, donc j'espère pour la fin de l'année en tout cas.
Donc on a à peu près un an à attendre, on va avoir nos réponses. Là.
C'est ça, peut-être un peu moins encore... Peut-être que d'ici la rentrée 2012, ça devrait déjà pas être loin de la sortie.
Et sinon, pour Michael, d'autres projets qui s'en viennent aussi?
Donc toujours en jeunesse chez Claire de Lune, j'ai Circus, donc dans le même esprit que La Neige et les Nuages. Ça sortira en mars en France, en Europe et donc un mois plus tard au Québec. Et donc ça sera Circus. En fin d'année, j'aurai aussi un deuxième conte antillais qui s'appelle Félix et la case hurlante, qui est la suite de Félix et le flamboyant bleu aux éditions PLB, qui est une maison d'édition antillaise. Et ça sortira à la fin de l'année.
Alors, ben, si on veut rester au courant de vos projets, michaelbd.com. Évidemment, donc, Rap à nuit, premier tome chez Claire de Lune qui est disponible présentement. Et donc, nous, on se dit à la prochaine.
Mais à la prochaine, merci.
Merci.
Les week-ends à Télé-Québec, l'écran s'anime dès 6h.
Mmh, votre Lexan, c'est vrai?
Des séries de qualité toute la matinée. Du grand plaisir pour les tout-petits.
Ça, c'est super!
Parce que les enfants méritent ce qu'il y a de mieux. Télé-Québec, l'autre télé.
Vous avez l'oreille curieuse? Vous recherchez des sons différents? Vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens? Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1.
C'est KRL 89.1.
Une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
En BD sur les ondes du 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir de vous retrouver ici. Et je vous rappelle, par ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, voir les menus des émissions qui s'en viennent, voir également ce qui se passe en BD, on essaie de vous tenir un peu au courant, du moins à Québec, donc via notre Facebook, via également le blog de l'émission lavieenbd.wordpress.com. Encore à venir à l'émission, mais normalement, on devrait recevoir Joël Sim pour son exposition Abstraction au Cercle, mais pour le moment, on a le plaisir d'être en compagnie d'un de nos collaborateurs. Thomas-Louis Côté, bonjour.
Bonjour.
En fait, j'ai envie de faire un pont avec la chronique, une des chroniques que tu avais faites cet automne autour des aventures de Tintin, oui. qui a obtenu le Golden Globe du meilleur film d'animation.
Alors, et oui. Avec un certain scandale au sens où Steven Spielberg n'a pas remercié Hergé, ce qu'il aurait peut-être dû faire, au moins peut-être Fanny Rodwell et Nick Rodwell qui lui ont donné la chance de refaire cet album-là.
Ah ben, en fait, ce sera peut-être à corriger si la score est remportée.
Exact.
Alors, dossier à suivre. Mais sinon, Thomas-Louis, j'ai lancé en introduction, tu nous parles cette semaine de commercialisation, tu nous parles de branding, tu nous parles de vente de planches originales de bande dessinée.
Oui, ben, dans le fond, je voulais vous parler de ça pour la simple et bonne raison que j'ai reçu. Quelqu'un m'a envoyé une information la semaine dernière relativement à un encan qu'il va y avoir aux États-Unis où il y aura une illustration originale de Bill Watterson qui a fait Calvin and Hobbes. Puis j'ai trouvé ça assez comique parce que de voir que Bill Watterson, pour ceux qui le connaissent pas ou qui connaissent peu, a créé Calvin and Hobbes qui a débuté dans les journaux en 1985. C'est devenu un succès instantané et la grande surprise de tous, Bill Watterson a décidé en 1995 d'arrêter totalement la publication de Calvin and Hobbes, d'en faire une fin, et que son œuvre ait duré 10 ans, et qu'encore aujourd'hui marque énormément.
Oui, parce qu'en fait, je veux dire, c'est une référence pratiquement incontournable, mais effectivement, ça fait des années qu'il n'y a rien de nouveau qui a été fait autour de ça.
Et Bill Watterson est tombé dans l'anonymat total, il vit dans un petit village, et il refuse toute demande d'entrevue, aucune apparition. Encore là, c'est un peu le point régent du charme, mais il y a peu de photos qui existent de lui. C'est vraiment spécial qu'il y ait l'illustration en vente à l'encan, c'est que c'est une des seules pièces originales de Bill Watterson qui existe sur le marché.
Mon Dieu.
Une des choses qui a amené Bill Watterson à arrêter, c'est son dégoût, un peu justement de la du merchandising que les gens voulaient faire de ses personnages.
Donc, essayer de faire plein de petits produits dérivés.
Exactement, que ce soit des boîtes à lunch, des t-shirts et tout.
Pensant à Garfield.
Exact, exact. Et il reste, et tu sais, il y a presque rien qui s'est fait de façon officielle en merchandising. Tout s'est fait de façon en contrefaçon ou des gens qui sont amusés à le faire. Une des choses qui l'avait choqué beaucoup à l'époque, c'est un collant qu'on voit souvent sur des véhicules où t'as Calvin qui urine. Et ça, c'est un collant qui avait été fait sans sa permission, bien sûr, et qui s'est répandu partout. Donc, il a décidé d'arrêter en 1995, de tomber dans l'oubli. Et comme je dis, il y a eu très peu de pièces qui sont parties de lui. Pour votre information, cette pièce-là est évaluée à 50 000 $ US et plus. Cependant, ça m'a amené à réfléchir parce que je voyais un parallèle à faire avec l'univers de Tintin. L'univers de Tintin, aussi, Hergé a très peu d'originaux qui sont officiellement en circulation. Il y en a quand même plusieurs, mais beaucoup moins que plusieurs autres auteurs. Et a battu des records de vente récemment avec ses originaux. Donc, pour je crois que la couverture du premier Tintin en Amérique s'est vendue au-dessus de 750 000 €.
Mon Dieu. Donc, c'est un marché assez hallucinant.
Oui, mais donc pour un carré, on s'entend qu'il y a à peu près 8 pouces par 8 pouces. Là, c'est pas quelque chose de même peut-être plus petit que ça. Donc, c'est pour ça que Bill Watterson, j'ai bien hâte de voir ce que son œuvre va faire, mais ça risque d'être assez hallucinant parce qu'il en existe peut-être 3 ou 4 pièces originales de lui qui sont en circulation. Le reste, il en a fait pour la plupart le don à une université au Texas, je crois. Donc, et pour l'anecdote, Bill Watterson s'est amusé à un certain moment à aller dans la librairie de son village et signer certains de ses livres. Et les gens qui ont su ça allaient à la librairie pour chercher les livres, pour les revendre par la suite, donc il a arrêté. Il y a vraiment, au niveau des collectionneurs, des fois ça peut être une maladie et lui a voulu vraiment s'en sortir.
Non, c'est intéressant, en fait, parce qu'en même temps, souvent, on lit simplement de la BD comme ça, mais on n'a pas conscience de la valeur que peuvent prendre certaines de ces éditions-là. Et éventuellement, on imagine aussi qu'il peut y avoir carrément une surenchère au niveau de certaines planches, de certains trucs qui sont un peu plus rares dans la mesure où, justement, il y a certains auteurs dont il y a très peu d'originaux.
La popularité de certains auteurs, parce qu'il peut y avoir des auteurs dont il n'y a presque pas de planches sur le marché, mais l'auteur est peu populaire, donc ça ne prendrait jamais énormément de valeur. Cependant, des gens comme Jacobs, qui a fait Blake et Mortimer, il n'y a presque pas de planches sur le marché, donc c'est ça atteint des prix assez faramineux. Mais pour en revenir à la commercialisation, si on regarde le parallèle que je voulais faire avec Tintin, c'est que Tintin aussi a une carrière où il n'y aura plus d'album de Tintin. Tout ce qui se fait à partir du matériel qui a déjà été publié.
Mais il s'en fait beaucoup, par exemple.
Il s'en fait des tonnes. Et au-delà du livre, parce que même Calvin and Hobbes est encore publié, il y a eu des intégrales, il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais Tintin vont pousser la coche vraiment beaucoup plus loin en publiant des recueils de 2 albums, d'un album, l'album commenté de l'album, l'album photo de l'album.
Et on en avait parlé un peu l'année dernière, Thomas Louis, dans la mesure où tu nous avais dit un peu en amont du film Tintin, alors regardez, il y a tellement eu d'abus, entre guillemets, de produits dérivés d'albums, de contre-albums, qu'on avait un peu endommagé la marque, le branding Tintin.
C'est qu'on l'avait amené à un niveau où c'était devenu un produit de luxe. Et toutes par exemple, les figurines Tintin, il y en a énormément. Si on parle aux petits bonhommes qui ont à peu près 2 pouces, qui sont en plastique, qui sont vendus à l'imaginaire, par exemple, on parle de 7-8 $ pour une petite figurine. Tandis que si on regarde McFarlane, qui fait des superbes figurines aux États-Unis, ils vont vendre pour à peu près 14 $ une figurine articulée, pleine grandeur, avec costume et tout. Et où Tintin, on fait beaucoup aussi des figurines en résine, qui sont des figurines à 300, 400, 500, 800 $ et plus, parce qu'il y a vraiment des modèles qui coûtent plus cher que ça. Il s'est poussé à m'en être pressé le citron un peu trop et d'en faire. Ça nourrit un marché, ça crée une demande, mais quand je disais que ça avait peut-être nuit, c'est que ça a été c'est un public de nostalgie, certainement, qui va acheter ça pour collectionner, et les jeunes lecteurs se tournent vers d'autres choses.
Et Bill Watterson, donc, via Calvin and Hobbes, a choisi de ne pas tomber dans ce piège-là, mais j'ai l'impression qu'il a peut-être été dans l'autre extrême aussi, en disant, regardez, moi, mon œuvre, ce n'est que ces livres-là, c'est 10 ans, c'est tout. Il n'y aura rien d'autre que les livres.
Exactement, mais en même temps, ça n'a pas été si négatif, au sens où encore aujourd'hui, on a plaisir à relire Calvin and Hobbes et à le faire découvrir à d'autres gens, et les gens qui le découvrent, c'est encore très actuel, Calvin and Hobbes. Prince par rapport à Tintin, par exemple, qui a été réactualisé par le film, mais qui tirait de la patte par rapport à d'autres séries jeunesse comme Titeuf ou Kid Paddle.
Un côté peut-être plus intemporel aux histoires racontées dans Calvin and Hobbes.
Ben, ça reste l'enfance, hein? L'enfance, l'imagination, le rêve. Si vous connaissez pas Calvin and Hobbes, ça vaut vraiment la peine de découvrir ça. C'est un des joyaux de la bande dessinée américaine. Fait sous forme de strip, comme Peanuts, comme Garfield, on retrouve peut-être un peu de justement, Peanuts, qui était une référence dans les... Dans le strip aux États-Unis, Calvin and Hobbes, c'est même niveau. Et personnellement, j'ai plus de plaisir à lire Calvin and Hobbes que je pourrais en avoir à lire Snoopy.
Et dans ce contexte-là, si on revient un peu à la notion de vente de planches originales, je savais, est-ce qu'ils s'en vendent beaucoup? Je veux dire, je parlais d'enchères, d'encans. Est-ce que
C'est un marché grandissant, particulièrement en Europe et aux États-Unis, où il y a de plus en plus de lieux de vente et des encans spécialisés. En Europe, il y a énormément d'encans spécialisés présentement. Il y a aussi plusieurs galeries qui se sont ouvertes. Aux États-Unis, c'est un marché qui existe depuis quand même assez longtemps aussi. Mais il y a un nombre incroyable de planches en circulation. Là.
Et de quelle manière, justement, on parle de rareté, de demande aussi. Donc, il y a certaines séries qui sont plus en demande, qui demandent plus. Donc, comme un peu dans n'importe quel domaine.
Pour un même auteur, ça peut varier énormément. Si on parle de quelqu'un comme Vance, qui a fait 13, ses albums, ses premières choses, comme Bob Moran ou d'autres séries qu'il a fait pour, je crois que c'était Spirou, ça n'a pas la même valeur du tout que peut avoir une planche de 13, qui est une série qui s'est vendue à des milliers d'exemplaires. Là. Donc, c'est même pour un même auteur, il peut avoir une grande variation dans les prix. Là.
Et est-ce qu'on a l'impression que c'est un marché, tu dis, c'est en développement, est-ce qu'il va avoir autant de solidité qu'un marché comme le marché de l'art, ou ça va rester quand même un produit de marge, un produit un peu plus marginal?
Ben, c'est certain que tout produit dérivé de la bande dessinée va rester un peu un produit marginal par rapport à ce que l'art visuel ou le grand art peut être. Si on regarde, récemment, il s'est vendu un original de Roy Lichtenstein qui reprenait des couvertures de bande dessinée. C'est vendu pour quelques millions de dollars, une reproduction d'une couverture de bande dessinée qui, elle, s'était vendue pour quelques centaines de dollars. Donc, pour à peu près le même dessin, si on peut s'entendre, mais réalisé par deux personnes différentes, une grosse marge de différence. Et en Europe, il y a eu beaucoup d'articles récemment sur la valeur que peuvent avoir les planches et l'investissement que ça peut revenir. Donc, il y a certains auteurs comme Bilal qui a fait une vente de ses originaux et lui est allé rejoindre un public d'auteurs, de collectionneurs en art visuel, art contemporain. Puis il a vraiment trouvé sa niche là-dedans et ses planches se sont vendues quand même très chères.
Parce qu'on peut imaginer, en fait, tu dis le marché européen est très fort, c'est-à-dire qu'à Londres, à Paris, il y a des galeries qui font dans les planches originales BD.
Oui. À Paris, il y en a plusieurs, en Belgique, à différents endroits. Sur Internet, il y en a plusieurs également qui existent. Au Québec, c'était moins présent. Il y en avait une jusqu'à cette semaine, dans le fond, qui était la galerie qui a annoncé sa fermeture et qui était un lieu, justement, où les gens pouvaient aller chercher des planches originales de différents auteurs, autant québécois qu'européens.
Et c'est un peu symptomatique du fait que la BD ici est encore en train de prendre racine alors que c'est une longue tradition du côté de l'Europe.
Oui, ben c'est un mélange de facteurs, je dirais, pour pourquoi ça l'a fermé, mais parce que la galerie avait également ouvert une galerie à Paris et la galerie à Paris avait fermé avant les fêtes. Okay. Mais donc, il y a effectivement au Québec pas nécessairement de marché qui s'est implanté pour les planches. C'est pas dit que ça viendra pas. Puis ça peut même être intéressant de voir au niveau des auteurs québécois, on pense déjà comme Michel Rabagliati ou Jimmy Beaulieu et d'autres qui ont quand même des gens qui les suivent et qui sont prêts à acheter des planches. Moi, je vous invite, si vous voulez investir en bande dessinée, vous faire plaisir des fois une planche originale est vraiment une œuvre d'art comme telle. Puis c'est fascinant de voir tous les détails que ça peut avoir.
Et en terminant, Thomas-Louis Côté, justement, si on a envie de s'intéresser un peu à cet univers-là, à les voir un peu à creuser l'achat de planches originales, est-ce que les conseils qu'on devrait avoir en tête?
Bien, sur Internet, il existe des sites qui recommandes justement quoi regarder dans les planches, quoi voir, parce que une planche, même à l'intérieur d'une même série de planches, il y a certaines planches qui peuvent être plus intéressantes pour la disposition des cases, le graphisme et tout ça. Ça va vraiment de l'auteur à la planche elle-même, au coup de cœur que quelqu'un peut avoir pour une illustration, même à la nostalgie, parce qu'il y a moyen d'aller chercher des planches de séries comme PIF ou des choses qui sont qui n'ont pas nécessairement une grande valeur, mais qui peuvent être une valeur sentimentale, si on veut.
Alors, ce sera, c'est à surveiller, c'est à explorer, mais on se documente avant pour...
Oui, il faut absolument... à l'instant, en coup de cœur, oui, mais ça vaut la peine de lire un peu avant pour avoir une idée de ce qu'on achète. Là.
Oui, puis savoir un peu quel prix habituellement l'auteur demande. Est-ce qu'on nous surcharge? Est-ce qu'on nous sous-charge?
Est-ce que... Et de parler ou d'acheter directement de l'auteur, il reste toujours peut-être la meilleure chose à faire. Là.
Et quelques mots-clés de référence, peut-être si on cherche des sites Internet.
Ben, il y a des sites comme BD Geste, qui a un forum où il y a beaucoup de sujets sur les originaux. Si vous voulez voir un exemple d'une galerie reconnue en planche originale, une galerie comme Daniel Maghen, M-A-G-H-E-N, à Paris. Donc, un très bon site pour justement voir, ou les petits papiers en Belgique. Mais je sais qu'il y a un site Wiki originaux qui donne vraiment tous les renseignements là, sur quoi voir, où aller voir et tout. Donc, ça vaut la peine de fouiller pour ça.
Alors, ben, on invite les gens à faire un peu d'exploration là-dessus. Et si vous avez d'autres bonnes pistes, ben, Facebook ou le blog, et ça nous fera plaisir de donner les bonnes idées aux autres auditeurs, auditrices. Thomas-Louis Côté, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et nous, on se revoit quelque part en février, on peut le mentionner. Tu vas aller faire un tour à Angoulême.
Exactement. Donc, je pars lundi pour le Festival d'Angoulême. Donc, on en parlera à mon retour, si tu veux.
Excellent. Alors, à très bientôt. Musicaux qu'on vous propose au fil de l'émission, donc la formation donc Mess with Texas. Et ben, malheureusement, on nous informe que Joël Sim ne pourra pas être avec nous pour l'émission. Malheureusement, donc, il est retenu ailleurs. Petit problème de santé ce soir, malheureusement. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et ben, en fait, toujours plusieurs BD qui arrivent dans ma boîte aux lettres, et notamment en fait une série que j'aime beaucoup, Pico Bug, que vous connaissez peut-être en fait. L'auteur Alexis Dormal qui était venu d'ailleurs faire un tour, l'un des auteurs en fait, Alexis Dormal, qui était venu faire un tour au Festival de la BD de Québec il y a de ça un an ou deux, je pense, si ma mémoire est bonne, je pense 2 ans. Et donc, c'est une bande dessinée de série BD qu'il réalise avec sa mère, Dominique Rock. Donc, un duo quand même assez particulier. En termes de, j'imagine, d'esprit dynamique. Et donc, ça nous donne aussi des BD qui sont extrêmement particulières, mais extrêmement charmantes aussi. Une BD qui se consacre à l'univers de l'enfance, à ces souvenirs qu'on a, des mots d'enfant, des paroles d'enfant. Je dis souvenirs parce que il y en a certains qui m'ont dit, qui m'ont signalé, regarde, dans Picobug, les enfants ne parlent pas comme des enfants, non. Ils parlent comme des versions idéalisées d'enfants, des souvenirs qu'on peut avoir justement de ces moments passés avec nos bambins. Et on sent qu'il y a peut-être ce petit côté-là, dans la mesure où les anecdotes, les réflexions, les propos qui sont ramenés dans Picobug, en partie, bien entendu, c'est complètement fictif, mais c'est aussi en partie inventé, inspiré d'anecdotes réelles, soit de l'enfance de l'auteur, soit de l'enfance d'amis de l'auteur, de d'autres, bref. Donc, il y a tout ça à l'intérieur de cette série, ce qui fait aussi qu'en termes de références, bon, on parlait de Calvin and Hobbes tout à l'heure, eh bien, je pense qu'il y a un pont naturel qui peut se faire vers cette série. On peut aussi peut-être, et moi ça me faisait beaucoup penser à cette série des petits Nicolas de Sampé, dans l'esprit, dans la dynamique, dans le type d'échange peut-être qu'on retrouve entre les jeunes et dans ce regard et ce monde de l'enfance très particulier qu'on nous propose à l'intérieur de ces séries. Et parallèlement avec Légère contrariété, on essaie de développer peut-être un peu plus un thème, un axe, comparativement aux quatre premiers tomes de la série. Donc ici, c'est les parents de Pico et Anna qui comptent aller faire un tour, faire des vacances, mais sans leurs enfants pour la première fois. Et les enfants ne sont pas contents. Donc c'est un peu la rengaine qu'on retrouve de case en case, de planche en planche à l'intérieur de cette série. Et donc on réussi à apporter peut-être, je dirais pas à vendre nouveau, mais à continuer de faire tourner la roue, allons-y avec cette expression-là, continuer de faire tourner la roue à l'intérieur de cette série-là, apporter pas nécessairement un renouvellement, mais suffisamment de souffle pour continuer à faire avancer cette série et un univers qu'on apprécie, qui reste essentiellement le même. Malgré tout, là, ça reste quand même aussi une série de petites planches, de petits gags, 4 cases, des fois plus. Et on se retrouve aussi dans les vacances d'été, une lampe torpeur, piscine gonflable, balade de vélo, discussion entre les arbres, désobéissance, pique assassine, tirade tragique, bref, tout ce qui fait qu'on a ces souvenirs parfois assez positifs et assez joyeux de notre enfance. Alors, moi, je vous le recommande, si vous aimez cette série, c'est certain que le cinquième est dans la lignée des quatre premiers. Si vous ne connaissez pas Picobug, jetez un coup d'œil sur un des cinq. Très sincèrement, là, ils sont tous aussi bons les uns que les autres, ont leurs faiblesses, ont leurs qualités, et vous allez découvrir peut-être un univers qui va vous plaire. Et parallèlement, j'ai envie qu'on reste un peu dans les éléments qu'on a référencés cet automne, sorti de l'épisode 4 de la série Antares de Léo, auteur qui était référencé par Michael en entrevue tout à l'heure. On fait des liens ici à la vie en BD. Quatrième tome où on poursuit un peu cette saga qui a été entamée par l'auteur. Donc, une planète hostile, faune agressive, passager clandestin, des conflits entre des gens qui sont motivés par un développement, par une curiosité, d'autres qui sont motivés par une foi aveugle et bornée, voire même dogmatique. Donc, des petits conflits, des grands conflits qui peuplent cet univers-là. Je ne connaissais pas énormément cette série. En fait, je suis arrivé un peu par hasard. Et même si je n'avais pas une grande mise en contexte de cet univers-là, je suis tombé rapidement dans ce tome-là. Ce sera peut-être la même chose pour vous. Et surtout, en fait, c'est cette petite pique me fait rendre compte que j'ai manqué, je crois, une bonne série de science-fiction en BD. Donc un univers, une logique, une cohérence d'éléments en éléments. Donc ça donne quelque chose de bien intéressant à mon avis. Et le tome 4, ben, qui aussi nous amène quelques réflexions, quelques côtés philosophiques aussi. Bon, la secte religieuse qui finalement force les femmes à se raser la tête, qui les traite comme des êtres de seconde classe. Il y a une révolte aussi là-dessus. Donc, on surfe en différents degrés de narration, de problématiques. Il y a, oui, d'un côté, la nature presque maléfique de cette planète-là, mais de l'autre côté, la nature parfois maléfique des humains également qui viennent amener des périls et renouveler la narration et le rythme de cette BD qui est quand même assez rapide, somme toute. Ah ben voilà, donc une BD assez intéressante et une tendance croissante aussi si on compare avec les autres volumes chez l'auteur à cadrer au plus près des personnages. Parfois, on dépend des arrière-plans côté dessin là, qui sont peut-être un peu plus aplatis. Bon, donc, c'est pas un dessin qui est merveilleux, mais c'est un récit qui est suffisamment riche pour capter notre attention. Alors, ça, c'est Antares, épisode 4 de Léo. Alors, ben, on prend une dernière petite pause musicale avec When We Was Kids, toujours de Don't Mess With Texas. Extrait, bien entendu, on vous donne toujours les informations sur les groupes qu'on vous propose via le blog de l'émission lavieenbd.wordpress.com. Et en terminant, petite mention, j'ai mis le lien sur le Facebook cette fois-ci de l'émission. On fait une belle réflexion via le comptoir de la BD sur la question de la BD de reportage. Est-ce que c'est le début d'un âge d'art? On en a beaucoup parlé, on en reparlera beaucoup également, j'imagine, au fil des saisons. Alors, une réflexion qui est soulevée par donc Sébastien Naïko, qui est bien intéressante avec donc Joe Sacco, Étienne Davodeau, Christophe Blain et bien d'autres, Guy Delisle. Donc, vraiment, en fait, une poussée presque constante de ce type de bande dessinée-là. Alors, est-ce que c'est l'amorce d'un nouvel âge? Eh bien, la question se pose et lui, il répond, semble dire que oui. Alors, ben, je vous invite à acheter un coup d'œil à cet article, donc, sur le comptoir de la BD. Évidemment, on mettra le lien aussi sur le blog, tiens, lorsqu'on mettra la version podcast disponible un peu plus tard la semaine prochaine. Ah ben voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. On vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end. On se dit à vendredi prochain. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et dans quelques instants, c'est l'équipe de 100% Dynamite qui prend l'antenne.